Ben, si tu veux, c'est un petit peu aussi le même problème. Enfin, je m'ennuie de parler de moi, même, puisque tu vas me cerner, tu vas me piéger de toute façon.
L'instant 2.
L'instant 2.
L'instant 2. Vous allez rencontrer quelqu'un.
On m'a souvent dit, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Je crois pas à ça. Je crois qu'il faut avoir une loi, il faut être sa vérité. Il faut se battre proprement, loyalement. Mais il faut savoir que chaque jour est un combat. Le lendemain, il faut tout refaire. Il faut aller chercher. C'est merveilleux. Aller chercher les gens qui ne veulent pas, qui se refusent, par pudeur. Comme ça, lentement. On ne peut pas tricher.
Un invité. Partez à sa rencontre. Prenez le temps de partager. L'instant 2
sur Radio Grenouille.
Vous aussi, vous vous en fichez pas mal des guerres d'héritage de la famille Hallyday. Ils vous fatiguent même, franchement, les « c'est moi qui l'ai dit qu'il est, gna gna gna, tu l'auras pas, non pas toi Laura », ou encore plutôt mourir « oh David contre Goliath ». Cet héritage-là ne vous intéresse pas, tant mieux. Nous non plus. Pourtant l'héritage tout court, bah si, c'est fascinant l'héritage. D'où on vient, où l'on va, qu'est-ce qu'on retient de ce qu'on nous a donné, qu'est-ce qu'on rejette de la transmission, quelle partie des autres on choisit de garder en soi, pour soi et pour les autres aussi finalement, pour les transmettre. Ces questions de gamin, elles nous traversent en fait, elles nous animent tout le temps. Et comme notre invité du mois de mai a traversé ces interrogations, ou peut-être même l'inverse d'ailleurs, ces interrogations l'ont traversé, elle nous a livré en image un témoignage bouleversant. Résultat, elle a une gueule d'ange, toujours, et un film documentaire dans ses poches, Le Sein des Voyous, qui marche bien, très bien en festival. Alors, allons-y franco sur la question de l'héritage. Et le gâteau dans tout ça, vous allez me dire, les discussions interminables autour de la table du notaire, eh bien, on a des solutions. À qui aura la plus grosse part, on préférera chacun sa part. Plutôt que prendre sa part, on pourrait prendre part à un peu plus de collectifs. Plutôt que voler la part du pauvre, on pourrait faire de la place dans le bus. Plutôt que faire la part des choses, on pourrait s'aimer à part entière. Plutôt que prendre quelqu'un à part, on aimerait se donner la part belle, ensemble, la part à la joie. Pas de partie remise sur Radio Grenouille au soleil du printemps et des oiseaux qui chantent enfin. Que vous soyez bandit, chenapan, cow-boy ou indien dans les jeux d'enfants, grimpez donc sur le manège du 88.8, on ira tous au paradis, même toi là-bas. Parce qu'ici, dans l'instant 2, il n'y a ni saint. Ni voyous, il n'y a que nous.
Un moment, s'il vous plaît.
Bonjour Maïlys O12.
Bonjour.
Vous êtes plutôt saint ou plutôt voyou alors?
Oui. Mais du coup, c'est toute cette histoire de transmission, je pense un petit peu des deux.
Un petit peu des deux, mon capitaine. C'est vrai que vous avez un peu une gueule d'ange comme ça, une gueule de femme-enfant. Et pourtant, ce documentaire, Le Sein des Voyous, parce que c'est le premier, c'est votre premier, se transmet lui aussi. Et il est sur l'héritage, on va y revenir dans un instant, mais il se diffuse comme ça. C'est déjà énorme pour un premier documentaire.
C'est énorme, et d'autant plus que c'est mon film de fin d'études, que j'ai terminé mes études l'été dernier, et je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il sorte de l'école. Et non seulement il est sorti de l'école, mais il est bien sorti, il s'est bien baladé.
Et vous êtes baladé vous aussi, parce que vous êtes baladé à pas loin d'ici, des studios de Radio Grenouille, à Aubagne, à l'école Satis. Et puis ensuite en Ardèche. C'est comme ça que ce film, Le Sein des Voyous, sur la question de l'héritage est né, à travers des voyages aussi, un peu?
Alors oui, à travers des écoles, à travers des balades, à travers des voyages. Et c'est deux écoles que j'ai faites qui sont très complémentaires, parce qu'à Aubagne, c'est quand même plutôt orienté fiction. Mmh. Et c'est quand même un des exercices de l'école qui est de faire un teaser de documentaire qui m'a donné envie de compléter en faisant une école de documentaire par la suite.
D'accord, donc ce sont là aussi des histoires de transmission et de rencontres. J'imagine que d'être réalisatrice ou de devenir, comme vous l'êtes, réalisatrice de documentaire, ça se passe comme ça. On tire des fils,
oui.
On se transmet des choses.
Oui, il faut rester ouvert à la surprise et se laisser l'occasion d'être inspiré par tout, en fait,
Par tout le monde. Par tout et n'importe quoi?
N'importe quoi, non.
N'importe qui?
N'importe qui, peut-être.
Ah, peut-être. On va juste écouter le teaser, le fameux teaser, très vite, de votre film documentaire, Le Sein des Voyous, parce que je trouve, en tout cas, qu'il nous met plutôt bien dans l'ambiance de votre film. Et on en parlera de cette ambiance-là que vous avez réussi à créer, parce que franchement, c'est bouleversant, mais bouleversant au beau sens du terme. On est bouleversé avec beaucoup de joie aussi quand on sort de la projection de ce film. Écoutez.
Je suis rentré dans cette institution pénitentiaire en 1976. J'avais 15 ans. On avait le salut au drapeau le matin. Après, chacun partait dans ses ateliers. On était classés par section, professionnel, année. Et puis ensuite, c'était le bordel dans les ateliers. Quand je dis le bordel, c'était très carré, mais... On n'avait pas exactement... Enfin si, je crois que vraiment on avait les profs qu'on méritait, en fait, j'allais dire. On n'avait pas les profs normaux, quoi. On avait les profs qui nous considéraient comme des enculés, et du coup ils se comportaient comme des enculés.
Maëlys O'Douze, dans ce Sein des voyous, qui est votre film documentaire, qui parle ?
Il s'agit de mon père. Voilà, qui a. Et donc mon père est le personnage principal, parce qu'il s'agit de personnages quand même en documentaire. Et il y a aussi tous mes frères et sœurs dans le film.
Dans le film. On entend un moment un grand silence, parce que vous pouvez nous décrire ce qui se passe en image dans le teaser. Pourquoi
oui, alors j'ai un peu réalisé ce film comme une enquête. J'avais besoin, à la toute base, je savais rien de cette histoire de pénitencier pour enfants. Je savais juste qu'il avait été en pénitencier pour enfants à son adolescence. Mais je connaissais aucun détail.
Dans la question d'héritage, vous l'aviez entendu, vous vous souvenez, quand ?
Oui, quand j'ai commencé mes études de cinéma, mon père m'a dit qu'il trouvait que ça ferait un bon film de fiction et que si je voulais faire des recherches, il pouvait m'aider parce qu'il l'avait vécu.
Donc vous aviez quel âge ?
J'avais 22, 21.
Et là, c'est la première fois ?
C'est la première fois que j'entends
vous apprenez,
ça.
Que vous entendez, qu'on vous transmet que votre père, et c'est lui qui le dit, a été dans une maison de redressement, on peut l'appeler comme ça. Hein.
Oui.
D'accord. Et ensuite, l'enquête, elle continue comment, alors ?
Alors, pour commencer, je l'ai gardé dans un coin de ma tête. Et le jour où j'ai su qu'il fallait que je fasse un film de fin d'études, j'ai connecté. C'est ça que j'avais envie de faire. On m'a dit que j'aurais pas forcément le temps en deux mois. Mais j'ai quand même essayé. Et j'ai vraiment monté ça comme une enquête. Et donc, pour aider mon enquête, dans le mur de ma chambre, j'affichais tous les éléments. Donc, j'avais tout l'historique de la PJJ, de la protection judiciaire de la jeunesse. Parce que c'est en 76, c'est une époque que moi je connais pas du tout.
Il n'y a pas de numérique à cette époque-là non plus, pour retrouver des papiers, c'est ça ?
Aussi, ouais. Ouais. Et j'ai retrouvé aussi des vieilles photos de mon père de cette époque-là, que j'ai affichées aussi. Et voilà. Et donc pendant le teaser, pendant qu'il dit ça, on voit, on se balade sur le mur, en fait, de document en document. Voilà.
Que vous avez récolté,
que j'ai récolté. Ouais.
Mais on parlait de l'héritage, parce que c'est quand même tout l'intérêt aussi de ce film de fin d'études. Le choix du sujet, ça a été le vôtre. Il n'y avait pas un choix imposé, c'était à l'USAS, hein, donc dans le, ouais. Le master d'école documentaire en Ardèche. On vous a dit, il faut travailler sur le sujet de l'héritage ou pas du tout ?
Non, pas du tout. C'était un sujet complètement libre. On nous a même dit, il faut tourner en Ardèche. Donc, je n'ai pas du tout respecté ça. Mais c'était très libre. Donc, on avait un intervenant réalisation, ouais. Qui était là pour nous aider pendant toute la période du tournage, écriture-tournage, et qui était... il y en avait deux, donc moi j'étais avec Mehran Tamadon, qui est un très grand réalisateur de documentaires, qui a fait le film Iranien, que je conseille à tout le monde. Et du coup, on a commencé à discuter avec lui dès le premier jour, il y avait plusieurs pistes, personne n'était complètement sûr de savoir où il allait, et c'est en discutant avec lui qu'il m'a... Il m'a encouragé à prendre des risques, parce que c'était aussi des risques, c'était pas évident du tout de travailler sur sa propre famille, sur mon père en particulier. Et
sur un héritage qu'on apprend à l'âge de 20-22 ans, enfin, c'est aussi un secret de famille,
oui.
En un sens. Du coup, j'imagine quel bouleversement d'abord, avant même de réaliser ce film qui, de fait, est bouleversant, ça a dû être pour vous, Maëlys, de vous recevoir tout ça quand même, parce qu'il faut le gérer après en termes de quota émotionnel.
Alors, oui et non, parce que j'ai toujours su que mon père avait eu une vie très mouvementée.
Une vie de voyou.
Et voilà, exactement, une vie de voyou. Quand je suis née, il était assez jeune, donc c'était pas complètement terminé. Il a fait de la prison en tant qu'adulte aussi. Donc, c'est quelque chose, c'est effectivement un secret que je savais pas, mais j'étais pas surprise.
Voilà. D'accord. C'est fou. Et comme quoi, qu'est-ce qu'on garde de l'héritage qu'on nous transmet ou qu'on ne nous transmet pas ? C'est-à-dire que vous aviez déjà peut-être cette intuition-là, sur votre père en tout cas. Vous avez choisi, comme chacune de nos invités dans l'instant 2, un premier morceau de musique. Là aussi, on vous a laissé la liberté totale. Vous l'avez donc une fois prise à bras-le-corps, cette liberté. Parlez-nous juste de ce choix de La chasse à l'enfant, qui est un poème de Jacques Prévert. oui. À la base?
Ben alors, c'est un poème et une chanson que j'ai découvert pendant mes recherches, justement, sur les pénitenciers pour enfants. Et j'ai découvert que Belle-Île en mer, il y en avait un très connu. Et en particulier parce que un jour, je crois en 34.
La mutinerie.
Voilà, 34.
Du mois d'août, ouais.
Tous les enfants se sont échappés. Et l'administration du pénitencier a offert 500 francs à chaque personne qui ramènerait un enfant. Et du coup, pendant des jours, tout le monde cherchait des enfants et ils les ont tous ramenés. Et ça, ce qui a offusqué pas mal de gens, dont Prévert, qui en a écrit un poème. Et je trouve cette chanson, en tout cas moi quand je l'ai écoutée, quand j'étais vraiment là-dedans, quoi, j'étais en train de découvrir plein de choses sur mon père et sur ce qu'est le pénitencier pour enfants et comment on y vit. Quand j'ai écouté cette chanson, ça m'a énormément émue.
Bandit, voyou, voleur, schnappant. Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a de l'eau. Bandit, voyou, voleur, schnappant, qu'est-ce que ces hurlements? Bandit, voyou, voleur, schnappant, c'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Il avait dit, j'en ai assez de la maison de redressement. Et les gardiens à coups de clé lui avaient brisé les dents. Et puis il l'avait laissé étendu sur le ciment. Bandit, voyou, voleur, schnappant, maintenant il s'est sauvé. Et comme une bête traquée, il galope dans la nuit et tous galopent après lui. Les gendarmes, les touristes, les rentiers, les artistes. Bandit, voyou, voleur, schnappant, c'est la maître des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Pour chasser l'enfant, pas besoin de permis, tous les braves gens.
Vous êtes donc imaginé en 1934 sur l'île de Belle-Île-en-Mer. Marianne Oswald qui chante cette chanson merveilleusement bien. En musique, c'est Joseph Cosma qui s'en occupe tout de même. Et les mots, c'est bien sûr le grand Jacques Prévert. C'est incroyable cette chanson. J'imagine que vous, qui avez réalisé ce documentaire sur donc, votre père, qui était dans ces... J'ai du mal à dire quand, ces camps de redressement, et en même temps on y vient, surtout quand on voit ce qu'il raconte avoir subi. On l'entend aussi dans cette chanson, hein, les bandits ne sont pas toujours ceux que l'on croit.
Ouais.
Maëlys O'Douze, c'est ça aussi qui vous a peut-être titillé.
Oui, et puis d'ailleurs c'est dans le titre, c'est le saint des voyous, c'est pas juste le voyou. Et c'est beaucoup comme ça que je vois mon père. Même adulte, même maintenant, il y a beaucoup de cœur en lui et en même temps je sais que c'est un brigand, je le sais très bien. Et oui, parce que bah, dans le film, je le fais rencontrer, donc j'ai retrouvé un ancien éducateur qui se souvenait très bien de mon père et j'ai provoqué la rencontre entre eux sur le lieu.
Où était ce centre de redressement, celui-là, celui de votre père, par exemple
mais... À Vorep, à côté de Grenoble.
D'accord.
Voilà, et maintenant c'est des locaux de la mairie... Voilà. C'est toujours pas très agréable comme lieu, mais...
Voilà. Une ambiance un peu lourde.
Ouais, ouais. Voilà.
Et comment se passe la rencontre? On la voit très bien dans le film, mais comment s'est passé peut-être de votre point de vue de réalisatrice, de fille, du personnage? Là, on commence à tirer les fils un peu, qui est votre père. Quand vous aussi, vous avez rencontré son éducateur.
Ouais, si on peut dire comme ça.
On va rester neutre sur le terme. Mais ouais. Comment ça s'est passé?
Alors, justement, c'est marrant comme histoire, parce que je l'ai appelé. J'ai réussi à avoir son contact dans mes recherches. Je pense que je pourrais être détective.
C'est ce que vous avez fait pour ce film en même temps. Oui.
Donc j'ai réussi à avoir son numéro, je l'ai appelé et je lui ai expliqué le projet, qui j'étais, tout ça. Et il était super enthousiaste. Il était d'accord pour être filmé. Il était content de revoir mon père, il se souvenait très bien de lui.
L'éducateur. Hein.
L'éducateur.
Du centre de redressement pour mineurs.
Celui du film.
Celui du film.
Ouais, ouais. Et du coup, je me suis dit... Super. Il a l'air d'avoir rien à se reprocher. Ça, c'est peut-être un des gentils, mon père le dit. Il y en avait un ou deux qui ne lui ont pas fait de mal. Mm. Et
on va recoller les morceaux de l'histoire individuelle et collective, ça va être merveilleux. C'est
voilà,
ça.
Un peu... En tout cas, je me suis dit, ça ne va pas lui faire de mal. Quoi. Je me suis dit, c'est un des gentils, on va pouvoir discuter, il est content, il n'a rien à se reprocher, trop bien. Et mon père, comme il le dit dans le film aussi, il a tout oublié. Il a mis une chape de plomb sur cette histoire, donc là, j'avais beau lui dire le nom du mec, il ne voyait plus du tout qui c'était. Et donc, tant que... Avant d'y aller, on ne savait pas qui c'était, quoi. Et au moment où on y allait, on l'a rencontré, mon père a mis un moment quand même avant de reconnecter. Donc on a parlé avec lui pendant 10 minutes et au bout de 10 minutes, je l'ai vu connecter. J'ai vu mon père connecter et j'ai compris que non, c'était un des tortionnaires quoi. C'était pas
Vous
un des gentils.
Vous l'avez vu dans quoi ? Dans le regard de votre père ?
Ouais, dans son attitude, dans son regard. J'étais très très attentive à lui. C'était pas moi qui tenais la caméra, mais du coup j'étais proche de lui et... Et puis je savais qu'il allait connecter à un moment ou à un autre, puisque c'était son ancien éducateur qui l'avait eu pendant 2 ans et demi, 3 ans, enfin... Donc j'attendais ce moment-là et j'attendais de comprendre, et j'ai compris. Et voilà. Et du coup, après ça s'est enchaîné, on était déjà en train de tourner, et par exemple, dans le film, à un moment, l'éducateur raconte qu'il avait le front solide et qu'il mettait des coups de tête aux enfants. Et il le dit sans aucun regret, sans aucun scrupule. Et moi, j'ai pleuré à ce moment-là.
Et votre père ?
Et mon père, on voit sa réaction dans le film. Il est très... Il est assez bouleversé, il est assez choqué, mais il tient le coup. Et il reste très digne, je trouve.
Le saint des voyous, là encore. Ouais. Voilà. Vous avez réussi à être assez lucide aussi sur le personnage de votre père, qui est complexe et qui l'est pour vous aussi. Hein. D'ailleurs, on le sent dans ce film, il y a eu peut-être une recherche de votre propre héritage.
Bien sûr.
On ne va pas se mentir, non ?
Je sais
pas,
bien
ça, sûr. Ça a dû se faire comme ça. C'est intéressant la question de la mémoire, qu'il ait perdu la mémoire sur ce moment qu'il a vécu dans ce centre de redressement. Il avait quel âge, votre père ?
Il y a été de ses 15 à ses 18 ans.
Ouais.
En fait, il s'est évadé à ses 17 ans et demi et il est resté caché jusqu'à ses 18 ans. Donc, il a fait 2 ans et demi.
Et donc, comme les enfants de Belle-Île en mer dans la chanson La chasse à l'enfant, on l'a pas retrouvé, votre père, quand il s'est échappé ?
Non, il s'est caché.
On l'a pas retrouvé.
Jusqu'à sa majorité.
Jusqu'à sa majorité pour échapper à un autre système, du coup, peut-être, et en tout cas celui-ci. Dans votre film, ce qui est intéressant, on balaye déjà la question de l'héritage, donc le vote de votre point de vue de réalisatrice, celui de votre père qui va rechercher aussi son propre héritage, puisqu'il a oublié une partie de sa vie. Consciemment ou inconsciemment. Et puis il y a aussi, vous l'avez dit, vos frères et sœurs qui sont là.
Oui.
Que vous avez choisi de mettre dans le film. Votre famille est large, Maïlis,
oui.
Non ? C'est ce qu'on appelle aujourd'hui une famille recomposée.
Oui.
Comment elle est recomposée, votre famille ?
Alors, il y a...
C'est dur à résumer.
Il y a tout le monde.
Tout le monde.
Alors, je suis l'aînée. Du côté de mon père, on est 5. Le plus grand qu'on voit dans le film, Victor, a 24 ans. On a les deux mêmes parents. Voilà. Et après,
donc le saint des voyous.
Voilà, donc le saint des voyous.
Personnage du film.
Et notre maman.
Et votre maman.
Et donc après sa naissance, mes parents sont séparés. Mon père, de son côté, a fait 2 garçons, qu'on voit dans le film aussi, avec une autre femme, avec qui il s'est séparé. Et avec encore une 3e femme, il a fait une petite fille, qu'on voit dans le film. Et ma mère, de son côté, s'est mariée avec mon beau-père. Et a fait une petite fille aussi, qui a 9 ans aujourd'hui.
Comment elle s'appelle, cette petite fille ?
Elle s'appelle Margot.
Margot et Victor. Ça me dit quelque chose, moi. Vous savez, on a des surprises dans l'instant 2 pour nos invités. Bah oui, la question de l'héritage, elle se transmet aussi. On est allé faire notre enquête aussi, dans l'instant 2. Pour vous, Maïlis Oudouze, écoutez.
Parlez-moi d'elle.
Instant 2.
Comme si c'était la première fois.
Est-ce que tu connais Maïlis Oudouze ?
C'est une réalisatrice et c'est ma sœur.
T'as vu son film, Le Saint des Voyous ?
Non.
Il est bien, hein ?
Je sais pas, je l'ai pas vu.
Qu'est-ce que tu pourrais dire de Maïlis que les gens ne savent pas ?
Elle est émotionnelle.
Elle est émotive ?
Oui.
Qu'est-ce que ça fait d'être la sœur de Maïlis ?
Je suis assez fière d'elle.
T'es assez fière d'elle ?
Oui.
Un peu fière d'elle, mais pas trop non plus.
Non, très fière d'elle.
Elle aime bien les animaux ?
C'est pas ce qu'elle préfère, quoi. Je veux dire, ouais. Elle aime bien caresser les animaux, mais elle est pas fan, quoi. Elle,
ouais.
Elle déteste pas les animaux, mais.
Elle les aime pas non plus, quoi.
Oui.
Elle s'en fout un peu, en fait.
Oui.
À toi de jouer, ma puce.
Alors, est-ce que tu as vu le film Le Saint des Voyous ?
Oui. 5 fois.
Alors, tu connais bien Maïlis Oudouze ?
Oui, je connais bien Maïlis Oudouze.
pourquoi et comment la connais-tu ?
C'est ma sœur.
Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce qu'elle a ressenti en faisant ce film, de parler d'elle ?
Écoute, c'était une idée qu'elle avait depuis longtemps. Et elle voulait parler de l'enfance de mon père, un moment de son enfance un peu particulier. Et voilà, ça a été assez éprouvant et difficile à faire. Mais elle a vraiment assuré. Et je pense que le résultat a été une grande avancée pour sa relation avec lui, pour mon père, pour nous tous dans la famille. Et c'est un beau témoignage. Et je suis fier de ce qu'elle a fait.
Elle aime son métier, enfin, être réalisatrice ?
Non, elle déteste ça. on lui dit un mot à Maëlys ?
Oui.
Avant de partir ?
On t'aime et bon courage pour la suite.
Victor et Margot, les deux frères. Moi aussi, je suis émue du coup. Bah, tiens, on va pas se mentir. La sœur et le frère de Maëlys au 12, notre invité de l'instant 2 sur Radio Grenouille. Et ouais.
Je pleure, je rigole en même temps, c'est n'importe quoi.
Margot a dit que vous étiez émotionnelle.
Oui, bah ouais.
Et je crois qu'on peut lui décerner le prix à Margot de l'intervieweuse de l'année.
Ouais,
elle est formidable. Merci en tout cas à eux deux de nous avoir enregistré au son des oiseaux ce petit mot pour vous. Margot et Victor, donc frère et sœur de Maëlys. Sur la question de l'héritage, là on y est complètement. On parle d'être assez fiers, en fait très très fiers de vous, de relations, d'émotions, de travail aussi dans ce film documentaire que vous avez réalisé. Quelle est votre réaction là, comme ça franchement à chaud.
Je suis très émue, je suis très contente de les entendre alors que j'étais au téléphone avec Victor il y a une demi-heure, mais oui. Je suis encore contente de l'entendre.
Et pourquoi ?
Mais je sais pas, je les aime trop quoi.
Trop ?
Et, ouais.
On aime trop ? Famille ?
Non, jamais trop.
Ils vous aiment trop aussi, un peu comme oui. Ils sont fiers de vous. Bon, bah, comme dans l'instant 2, on se laisse surprendre nous aussi par des surprises, on va écouter l'une des chansons du film. Vous pouvez nous en parler, on l'entend juste derrière, on a le temps. C'est Beyoncé, grande dame aussi. Hein.
C'est Beyoncé, c'est la femme idéale,
ouais.
Clairement.
Ouais.
Et oui, j'ai essayé de mettre cette chanson au générique de mon film, mais ça ne marchait pas. Je voulais que vous la chantiez d'ailleurs.
On sait jamais, peut-être demain, ouais. Et elle s'appelle ?
Et elle s'appelle Daddy Lesson, et
Daddy
c'est sur son père.
Lesson, et c'est sur son père, comme le film Le Saint des Voyous, film documentaire de Maëlys O'Douze, l'invité du mois de mai. Oh, qu'il est beau ce mois de mai, plein d'héritage et de transmission. Vous êtes dans l'instant 2, évidemment, sur le 88.8. Let's groove.
Texas, 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 came into this world. Secretly recorded that.
It was. That's because we're all sweating. We're warm, we're loose. We're like, oh,
l'instant 2 sur Radio Grenouille.
Vous allez rencontrer quelqu'un.
Et ce quelqu'un, c'est Maëlys O'Douze, réalisatrice de son premier, mais pas dernier, dans des surfilms documentaires, Le Sein des Voyous. Et vous venez d'écouter ce qui groove, ce qui claque, ce qui fait du bien, ce qui donne du soleil, enfin revenu dans notre région marseillaise et sur Radio Grenouille, et qui va très bien au mois de mai. Cette chanson, Maëlys, que vous avez choisie, Daddy Lessons, énorme. Est-ce que c'est la chanson que vous écoutez quand vous vous dites, non mais j'aurais jamais dû être réalisatrice de documentaire, c'est beaucoup trop compliqué comme métier. Est-ce que c'est ça?
En tout cas, c'est Beyoncé.
Parce que celle-là, c'est une Beyoncé qu'on connaît moins quand même, ouais. Très franchement. Ouais. C'est quoi? C'est toutes les racines de musique black, afro, mais qui sont à la source de la Nouvelle-Orléans. Enfin, là, on imagine.
Mais elle est retournée à ça avec son dernier album, là.
C'est incroyable.
Il est génial.
On imagine une fanfare qui se balade dans New Orleans, ouais. Quoi. C'est ça?
Ouais.
Pourquoi cette chanson? Alors, elle parle de son père, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle dit dans cette chanson sur son père? Vous qui avez travaillé sur votre père aussi dans votre film.
Eh ben, elle raconte que son père. Lui dit d'être forte, lui dit de prendre soin de sa mère, de sa sœur, lui dit de tirer sur les mecs qui lui ressemblent, à lui. Et c'est beaucoup de choses que mon père me transmet aussi. Pour, par exemple, les premières valeurs qu'il m'a oralement transmises quand j'étais petite, c'était ne tape jamais sur plus petit que toi ou plus faible que toi et ne tape jamais sur un homme à terre. Voilà, ça c'est parce que je me battais beaucoup aussi quand j'étais petite.
Maintenant vous faites des films documentaires, oui. Vous luttez autrement,
mais
vous
battez autrement. Je fais de la boxe aussi.
Ah, vous faites de la boxe aussi. C'est fou ça, et surtout que ce qui est intéressant, c'est que je crois que votre père, vous ne l'avez pas vu souvent en fait. Mm. Et là aussi la question de l'héritage, est-ce qu'il marque comme ça, boum, comme un saut sur le front, voilà, une valeur, ouais, qu'on transmet.
C'est ça, c'est d'autant
pourquoi
plus...
Pourquoi c'est ça qui reste en fait?
Bah parce que justement, comme il m'a peu élevée, les choses qu'il a réussi à me transmettre, et bah elles ont beaucoup d'importance et comme vous dites, elles sont très, très ancrées. Mmh. Et les quelques bonnes valeurs positives, je les garde très précieusement, et mes frères ont les mêmes.
Ça me fait penser à et votre sœur, hein, Margot, la petite aussi, qui aussi n'est pas du même père, mais qui j'imagine a dû choper des
de nous, de Victor et moi, oui.
C'est ça qui est beau dans l'héritage, c'est qu'on a toujours tendance à voir la transmission comme quelque chose d'un petit peu linéaire, comme ça, qui vient des parents, mais en fait elle vient de partout. Et vous l'avez vu avec votre film, j'imagine. Ouais. Vous avez dû discuter avec vos frères et sœurs, avec votre mère aussi probablement. Et apprendre que vous aviez déjà appris tout un tas de choses, c'est ça?
Oui.
C'est ça que vous aimeriez montrer avec votre film quand vous le projetez dans des festivals, on va y revenir, ou à des publics très divers. C'est quoi le message derrière? Est-ce que c'est un peu ça?
Je pense qu'il y a plusieurs messages. Il y a effectivement ce message de transmission, de patrimoine, de...
Qui n'est pas que génétique.
Qui n'est pas du tout que génétique et qui est très important et du coup au-delà de moi, qui s'étend à mes frères et sœurs, qui s'étendra à mes enfants, et il y a aussi la question de la résilience qui est très importante. Je trouve que mon père est quelqu'un de très résilient en fait.
Pourquoi d'avoir souffert dans des centres de redressement pour mineurs et d'avoir fait des bêtises, hein, parce qu'il en a fait même après. En quoi il est résilient?
Et beaucoup de choses en fait. Il y a encore beaucoup de parties de sa vie que je connais peu, mais où pareil, j'ai quelques bribes et je sais qu'il a... En fait, depuis sa naissance, toute son enfance, toute son adolescence, il a été très maltraité et ça fait de lui un adulte plein de blessures ouvertes où il a mis un peu du sparadrap comme il pouvait au fur et à mesure. Et là, j'ai juste arraché un sparadrap pour faire ce film et finalement, ça cicatrise parce qu'il se l'est approprié et il y a eu un effet cathartique non négligeable. Mmh. Mais ça a été très très violent, autant pour lui que pour moi.
Quand ton père est arrivé, c'était pas un petit saint. Il avait déjà son vaincu, il avait fait des bêtises, on ne sait pas comment ça allait se terminer. Donc la loi a mis un coup de frein en disant « terminé, tu vas à la mort ».
Mais tu sais, moi, quand je suis sorti d'ici, j'ai tout oublié. Mm-hmm. Mais tout, absolument tout. J'ai voulu tout oublier, comme si ça n'avait jamais existé. Mm-hmm. Et j'en ai parlé que de nombreuses années plus tard, à mes compagnes, par exemple, à mes enfants, à mes grands en tout cas, pour cacher ça, d'une certaine façon. Non pas que j'en avais honte, parce que j'en ai pas honte, j'en suis pas fier non plus, mais si tu veux, la mécanique auto que j'ai appris avec toi, je m'en suis jamais servi.
Oui, mais c'est pas important.
Je m'en suis jamais servi. Je ne voulais pas faire de mécanique auto. Je ne voulais surtout pas faire de mécanique auto. Surtout pas me souvenir de tout ça.
Est-ce que du coup, cette violence vous l'avez dit, qu'on sublime, là, que vous avez sublimé vous en faisant un film, finalement, sur votre héritage, et puis là, en le recevant, ce film, votre père, est-ce que cette violence-là, elle peut aider quand vous projetez un film à des pères qui ont été absents, à des pères qui ont fait des bêtises, à des mères aussi, qui ont souffert, à pas des pères ou pas des mères, juste à des gens qui ont été dans un moment de leur vie, on peut y aller aussi, hein, on peut aller violenter, violer parfois aussi, qui ont une souffrance morale ou physique, est-ce qu'en voyant ce film, elles peuvent passer de la souffrance à quelque chose de l'ordre du pardon? Est-ce que ça peut marcher? Est-ce que vous l'avez déjà vu dans le public?
Oui, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont venus me voir et qui ressentaient le besoin de me raconter du coup leur histoire et le lien entre leur histoire et ce qu'ils ont ressenti en regardant mon film. Et beaucoup m'ont dit que le film leur avait fait beaucoup de bien. Il y a aussi des jeunes de mon âge qui m'ont dit mais ça y est, je vais passer le pas, je vais aller filmer mon père, ou je vais aller interroger mon père, ou je vais écrire sur mes parents, ou à qui ça a donné envie de...
Ou je vais écrire à mes parents.
Oui, ou
puisqu'on
aussi...
Puisqu'on ne voit plus.
aussi, ah ouais, ouais, ouais. En tout cas, ça donne envie, le film leur a donné envie de passer un cap au lieu de ressasser des choses. Et c'est hyper, bon, c'est hyper gratifiant pour moi. Et aussi, on a eu... une projection à l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse.
J'allais y venir. Et alors ça, c'est incroyable.
Et c'était assez incroyable, ouais. Et donc mon père était invité aussi. Donc c'était sa première projection publique. C'était la première fois qu'il venait avec moi. Donc il a vu le film en amphi avec pas mal de gens. Il a été très ému.
Et dans une institution, c'est ça qui est intéressant.
Et surtout
quand même.
Dans l'institution.
Parce
de
que votre
ce,
film, ouais. il est critique, mais ce qui est beau dans votre film, Le Saint des Voyous, c'est qu'il n'est pas polémique. C'est-à-dire qu'on sent qu'on n'est pas là pour tirer ni sur une ambulance des deux côtés. Voilà, ni sur les éducateurs qui effectivement ont fait du mal, ou sur votre père qui a souffert, mais qui a aussi fait pas mal de bêtises dans sa vie. Et ça, c'est intéressant aussi d'avoir vous accepté de le diffuser, de le projeter dans une institution pénitentiaire qui n'est plus, évidemment, aujourd'hui en France, en tout cas, ce qu'a connu votre père en 76, c'est ça, en 1976. Il faut le faire, quand même. Vous n'avez pas eu un petit peu les chocottes de vous dire « Bon, je vais balancer ce film qui montre des camps de redressement pour des centres de redressement pour mineurs qui étaient pas tendres, quoi. »
Eh ben, au tout début, quand ils me l'ont proposé, ça m'a fait rire. Honnêtement.
Vous avez dit, quel est le parallèle ? Qu'est-ce qui leur prend ?
Oui, j'ai trouvé ça très ironique parce que finalement, c'est la PJJ qui l'a mis en pénitentiaire pour enfants il y a 30 ans et c'est eux qui me disent maintenant que mon film est formidable et qu'il faut que les éducateurs le voient et les futurs éducateurs surtout le voient. Et en fait, ça a du sens. J'ai trouvé ça super. Et il y a un truc auquel je ne m'attendais pas qui est que. Donc la projection s'est super bien passée, on a été très bien accueillis, les questions étaient très intéressantes. Pour une fois, elles étaient pour mon père, donc j'étais un peu tranquille.
Pas pour la réalisatrice ni la fille d'eux.
Bon, voilà. Ouais. Et il a très bien répondu, il a passé un message d'amour et de douceur. Et,
donc ce sont des éducateurs ou des éducatrices
des futurs éducateurs de centres fermés. Voilà, de la PJJ en fait.
Pour mineurs.
Voilà.
En France.
Voilà, c'est ça.
Pas rien. Quelles ont été leurs questions, tiens ?
Il y a eu beaucoup de ils ont beaucoup raconté des cas qu'ils avaient, ils ont fait beaucoup de parallèles et ils ont demandé, justement, ils voulaient savoir quel message ils voulaient passer aujourd'hui et ils sont beaucoup allés le voir en lui disant que ça avait changé pour eux leur vision de leur métier, quoi. Que ça avait ajouté une toute nouvelle dimension à leur métier. Et il y a même une fille qui est venue le voir en lui disant que elle, c'est particulier, elle était en alternance. Donc elle avait déjà commencé à travailler, elle n'était pas que à l'école. Elle avait eu des contrats et tout. Et elle disait, mais de temps en temps, je trouve ce métier trop difficile, vraiment. Et je ne sais plus à quoi me raccrocher. Et maintenant, je me raccrocherai à votre témoignage, à votre histoire et à vous, aujourd'hui, debout devant moi, vivant et résilient. Et c'était très fort, c'était très beau. Et ce à quoi je m'attendais encore moins, c'est que mon père a été rassuré de les voir. De voir que les futurs éducateurs, qu'il a rencontré tout, enfin voilà, c'est l'école nationale. Et
ils vont avoir des cas difficiles, entre guillemets, de mineurs, de gamins, de gamines, qui sont pour la plupart aussi paumés. Hein,
c'est-à-dire et mon père, il s'inquiète pour eux, en fait. Il s'inquiète pour tous les enfants qui sont dans son cas. Et il les a trouvés cultivés, et doux, et intelligents, et bienveillant, et ça lui a fait beaucoup de bien de les voir, quoi, de voir ces jeunes...
Oui, à la fois de voir ces jeunes futurs éducateurs et éducatrices, donc qui vont avoir affaire avec des enfants comme l'était votre père, dans un centre fermé, hein, c'est bien ça. Et puis aussi, peut-être, de lui se réconcilier avec sa propre histoire de gamin. Il se réconcilie avec le gamin qu'il a laissé derrière et qui a souffert, et puis aussi avec l'éducation aujourd'hui, et la manière dont on éduque, parce que là, effectivement, pour celles et ceux qui nous écoutent, je ne veux pas trop en dire sur le film, parce qu'il s'agit de le voir aussi, mais il raconte des témoignages où il a beaucoup souffert, mais même physiquement, dans ce centre de rétention. En 76, de quelle manière ?
On te faisait asseoir sur la chaise, on te rasait la tête, comme ça tu perdais toute ta puissance, ta dignité, tout ton pouvoir. Et une fois que t'étais rasé, on virait la chaise et le surveillant général, il te mettait une brasse qui te poussait vers l'un, qui t'en remettait une, qui te poussait vers l'autre, qui t'en remettait une, qui te poussait vers l'autre, qui t'en remettait une, qui te remettait là, 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 dans tous les sens.
En fait,
Je pourrais pas dire aujourd'hui combien de temps ça a duré. Je sais, quand tu sortais de là, t'étais rincé. Mais de rincé de chez rincé. Déjà, t'étais chauve. Mais grave chauve, quoi. C'est-à-dire boule de billard, quoi.
Mais c'est quasiment de la torture, en fait. Il s'agit d'électrocution et de grandes claques dans ta gueule. Je sais pas comment dire autrement.
Pas le dire autrement. Et donc c'est ça aussi, c'est se réconcilier avec ce qui est fait aujourd'hui. Est-ce que vous, en tant que réalisatrice, Maëlys Oudouze, et puis d'avoir travaillé sur ce sujet, donc de vous être renseignée sur les PJ, les centres fermés encore aujourd'hui de rétention pour mineurs, est-ce que ça vous a réconcilié, vous aussi, avec le traitement des mineurs je sais même pas comment les appeler, mais comment vous le dites-vous, en décrochage,
en délinquance, en fait.
Délinquance, voilà. Ouais. Comment vous le percevez?
Moi, je pense que j'aimerais faire une projection en centre, en centre éducatif fermé.
Donc là, pour les gamins qui sont dans le centre.
Et je pense que je me rendrais plus compte de l'impact que ça a eu sur moi à ce moment-là. Parce que là, je sais pas, je sais que ça a réconcilié beaucoup de choses en moi. Je pense pas que je mesure encore l'ampleur, ni pour mes frères, ni pour mon père d'ailleurs. Mais par rapport à la délinquance en général et le traitement des délinquants, je pense que j'ai besoin de creuser plus en général. Là, j'étais vraiment focus sur mon père.
D'accord. Eh ben, écoutez, c'est bien. Après, il faut l'héritage, on le prend et puis on le laisse aussi un petit peu. On le retravaille, surtout quand il est un petit peu lourd comme ça, quand même. Qu'est-ce que vous avez justement gardé de joyeux dans cette recherche et dans cet héritage et qu'est-ce que le film Le Sein des Voyous vous a permis de garder dans la transmission pure et simple d'une fille qui fait un film sur son père?
Bah, la confiance. C'est mon père m'a livré quelque chose. Et il aurait pu le donner qu'à moi, en fait. Il m'a fait confiance, il m'a tout raconté. Il a accepté de découvrir, il m'a fait confiance, je lui ai fait confiance. Vraiment, ça aurait pas pu marcher sinon. Ça se sent, je pense, on me dit que ça se sentait. Ça aurait pas pu être quelqu'un d'autre et j'aurais pas pu faire ce film sur quelqu'un d'autre que mon père. Et voilà, et c'est ça qui est de joyeux, je sais pas, mais d'heureux en tout cas, que je garde, quoi. Ouais, voilà.
C'est bien, la confiance. On va reparler des festivals aussi dans lesquels vous êtes passé, parce que pour un premier film, ça peut aussi donner de l'espoir et de la réconciliation avec les jeunes réalisateurs, réalisatrices de documentaires, quel que soit l'âge. D'ailleurs, on peut commencer très tard le documentaire, oui. Qui se disent bah tiens, j'ai envie de faire un sujet très personnel. Voilà, c'est possible. En tout cas, avec votre témoignage à vous, Maëlys. Juste une question d'abord avant ça. Le Sein des Voyous. J'aimerais revenir sur le titre du Sein des Voyous. Il y a quelque chose d'un petit peu religieux quand même, d'un peu christique dans tout ça. Est-ce qu'il croit en Dieu, votre père?
Non, pas du tout. Pas du tout.
Votre voyou de père?
C'est le saint patron des voyous et c'est quelque chose d'assez ironique. Et,
il a un tatouage, non?
Il est plein de tatouages. Ouais. Il est plein de tatouages et en fait, le Sein des Voyous, il l'avait en tatouage et il l'a recouvert. Il a recouvert plein d'anciens tatouages dont moi je me rappelle. Je me rappelle de certains. Celui-là, je ne m'en rappelle pas. Je pense qu'il l'a recouvert avant ma naissance. Et là, il veut le refaire en tatouage parce qu'il s'est approprié son histoire. Entre-temps.
C'est qui le Sein des Voyous, le saint patron des voyous?
Il n'a pas d'autre nom.
Il existe, enfin, si on croit au saint.
Voilà, c'est un petit bonhomme avec une auréole et une fourche.
D'accord. Voilà. D'accord.
Et c'est assez ironique parce que non, c'est pas très religieux. Ou alors ça l'est, je sais pas.
Est-ce que vous croyez en Dieu, Maëlys Oudouze?
Non, non plus.
Est-ce que vous dites merci? Est-ce que vous priez parfois pour quelque chose? Et si oui, pourquoi?
Oui,
pourquoi,
oui,
bon, ça m'arrive. À quoi vous dites merci, par exemple, comme ça, sur Radio Grenouille, dans l'instant 2 À quoi vous aimez dire merci? À qui?
Je sais pas, l'alignement des étoiles, ouais. Quelque chose comme ça. C'est très intuitif, en fait.
Qu'est-ce que vous aimez dire? Vous aimez dire merci à, je sais pas, à vos amis
Ah bah oui, dans la...
Oui, oui, merci, oui, dans la sûr. Vie, dans la vraie vie, dans pas la dans celle des vie. Étoiles ou celle du documentaire, ouais.
Oui, bien sûr, j'aime dire merci à mes amis, à ma famille.
Et vous priez pour un saint ou une sainte, vous?
Non.
Même pas le Sein des Voyous?
Non.
Bon, c'est bien. Moi, je vous ai tâté, donc on peut dire ça comme ça.
Oui.
Voilà. Moi, je prie pour la musique, parfois. Il m'arrive de le faire. Et pour quelqu'un que vous connaissez peut-être, Maëlys, ou que vous ne connaissez pas, et qu'on va vous faire découvrir dans l'instant 2, qui s'appelle Christelle Warren. Elle est incroyable et elle a sorti un album qui est absolument magnifique qui s'appelle Three the Hard Way. Vous l'aurez compris, elle n'est pas tout à fait de chez nous, mais si, elle vit en France une partie de l'année. Elle s'appelle Christelle Warren et sa chanson c'est Thanks and Praise. Voilà, merci et prions encore pour la musique. Been some time since I said to thee how I love you, how I'm grateful. Here I am, I've come to praise thee for your certainty. Where I was doubtful, oh, you in this rising world of waters, so heavy, so dark, so deep. I know where comfort is found in what you mean to me. I was lost, I was wandering, came so far to be all alone. Then you found me, you tell me it's gonna be alright. Took me in your arms, where I found home. Yes, I found home in this rising world of water. So I know where comfort is found and what you mean to me.
L'instant 2,
l'instant 2,
prenez le temps de partager sur Radio Grenouille.
Maëlys Audouze, notre invitée du mois de mai, en plein festival d'ailleurs de Cannes, hein, vous qui êtes réalisatrice de documentaires. On a un jury plutôt sympa avec Guédiguian quand même, Robert Guédiguian dans le jury du festival de Cannes. Quel bonheur, non?
Oui.
Quel bonheur. Vous, c'est plutôt le documentaire, mais lui quand même, ses films de fiction sont très axés documentaires. On a Elle est assez doux, Kristen Stewart. Le festival de Cannes, ça vous évoque quoi, Maëlys? Ça peut ne rien vous évoquer, hein, d'ailleurs. Mais...
Si, ça m'évoque beaucoup de choses. J'y suis jamais allée.
Est-ce qu'on pourrait imaginer un festival de Cannes des documentaires? Parce qu'il y a un festival de Cannes des séries qui s'est lancé il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines cette année. Mm. Ce serait génial, ça, quand même.
Bah, je pense que l'équivalent du festival de Cannes de côté documentaire, c'est le cinéma du réel. À Paris, à Beaubourg. Et il y a l'USAS aussi, qui est un très gros festival de documentaires.
Vous êtes passé par pas mal de festivals avec ce film, le Saint du Voyou, premier film, je le rappelle, de documentaire de sortie de fin d'études. Comme ça, une évocation de vos voyages, parce qu'on a eu beaucoup pour le présenter.
Bah, ça a commencé par l'USAS, du coup, en toute logique.
En toute logique.
Et où j'ai fait l'ouverture. Donc il y avait pas mal de monde, et à partir de là, ça s'est un peu engrangé. Je suis allée à Premier Plan, à Angers, au Festival de films de famille de Saint-Ouen, Festival du film d'éducation d'Évreux, Festival. J'en ai fait d'autres, mais là, il y en a.
Ils nous en voudront pas si vous ne les citez pas sur Radio Grenouille, pas de problème. Vous avez croisé même Catherine Deneuve, je crois, ou une certaine Agnès Varda.
Oui.
Bon, c'est pas mal, non ? Qu'est-ce que ça fait dans ces cas-là de croiser Agnès Varda, ou notamment, hein, pour l'aspect documentaire ?
En particulier, Agnès Varda, c'était très très chouette de la rencontrer en vrai, de pouvoir discuter avec elle et d'avoir ses encouragements aussi.
Et... Vous qui faites un film sur l'héritage et sur votre père, là, la transmission du cinéma et du documentaire, quand on rencontre Agnès Varda après son premier film, vous a dit quoi, Agnès Varda ?
Alors, en fait, c'était un peu à l'envers. C'est-à-dire qu'elle m'a demandé de regarder son premier film, accompagnée d'autres jeunes réalisateurs. Elle nous a demandé de regarder son premier film et d'en parler avec elle. Donc elle n'a pas vu les nôtres. Et
Ah, c'est drôle.
Ouais. Oui, et elle est en train en ce moment elle est dans un tout un délire de transmission justement. Ouais. Elle veut rencontrer des jeunes réalisateurs, elle veut discuter avec eux, toute la rencontre était filmée et du coup, c'était très agréable en fait de la rencontrer dans ce contexte-là où elle avait plein de choses à dire, où elle s'intéressait aussi à nous, où on en était, comment on s'en sortait.
Elle est vraiment dans l'écoute finalement. Ouais. Quel âge a Agnès Varda ? Plus de 80 ans, c'est ça ?
Ouais, ouais. 89, je crois.
Oui, c'est ça. Ouais. Bien, ouais. Elle est tellement jeune, elle fait tellement jeune. Comment vous voyez à plus de 80 ans réalisatrice de documentaires ? Maëlys, puis vous n'avez pas 80 ans. On l'aura compris, même si on n'a pas l'image. Dur, hein, ça ?
C'est dur. C'est super dur. Je me vois... J'espère que je ne m'ennuierai pas. Comme Agnès Varda. J'espère que je ferai encore plein de choses.
Tout pareil. Nous aussi, on est tout pareil qu'Agnès Varda sur Radio Grenouille. Si vous étiez Maëlys O'Douze, un film. Eh oui, cette question quand on est réalisatrice de documentaires et pas forcément de fiction, mais quand même. Si vous étiez un film, ce serait quoi ? Vous pouvez aussi répondre à cette question par si vous étiez une série. Ah. Vous êtes très friande, je crois, de séries.
Oui, je suis très friande de séries. Si j'étais une série, Peaky Blinders.
Pourquoi ?
Sans aucune hésitation. Parce que tout est parfait. C'est vraiment une série où j'aime d'amour chacun des personnages. Toute la déco est absolument parfaite. J'ai beaucoup d'émotions tout le temps. Je pleure, je rigole, j'ai peur.
Comme a dit précédemment votre petite sœur de 9 ans, vous êtes très émotionnelle. si vous étiez un plat, Maëlys O'Douze, comme ça.
Loukoum. C'est pas un plat.
C'est joli. Pourquoi c'est carré, c'est rond, c'est tendre, c'est
Loukoum
mignon.
Loukoum à la rose.
Oh, c'est votre côté fleur bleue ?
Oui.
D'accord. Si vous étiez... j'allais dire une sucrerie, donc c'est raté. C'est raté. Si vous étiez une réalisatrice ou un réalisateur ?
C'est compliqué, ça aussi. Hein.
Pour en dire plein à la fois.
Ah oui ?
Vu que le soleil est revenu, on se détend. Tout le monde est beaucoup plus détendu au mois de mai.
Je vais faire la facilité... Parce qu'évidemment, quand on me pose cette question, j'ai ma tête qui se vide.
Qu'est-ce qui reste quand on a la tête qui se vide après cette question ? C'est intéressant.
Il reste Tarantino, il reste Herzog, il reste Meran Tamadon et Stéphane Breton, qui est un super réalisateur de documentaires aussi.
Si vous étiez le film que vous ne ferez jamais, le sujet que vous ne traiterez jamais.
Parce que j'ai pas envie ?
C'est vous qui voyez. Moi, je pose juste les questions.
J'aimerais arriver à ne jamais faire un film narcissique.
C'est joli comme retournement de question.
Ça me fait très peur.
C'est quoi un film narcissique ?
Bah, en fait, j'ai eu peur par rapport au sein des voyous que ça soit ça. Vous savez, quand on est dans sa bulle de montage et que toujours avec les trois mêmes personnes, pendant un mois, quand on sort du montage, on se dit mais en fait, tout le monde s'en fout. Enfin... tout le monde s'en fout de mon histoire et j'ai eu très peur de ça et j'ai réussi à pas le faire mais j'ai pas fait exprès et du coup en documentaire de création notamment comme l'enjeu c'est quand même de mettre ses tripes sur la table j'ai l'impression que la frontière est fine et voilà.
Donc pas de film narcissique. On va vous demander d'être un peu narcissique mais pour nous plaire dans l'instant 2 parce qu'on est bientôt à la fin de cette émission. J'allais vous demander si vous étiez un livre, si vous étiez un texte et vous avez choisi quelque chose à nous lire
oui.
Dans cette émission qui est de fait un peu narcissique puisqu'elle est sur votre histoire. Mais vu que c'est un choix, elle n'est pas narcissique. On vous écoute Maëlys O'Douze.
Alors... Raconter une histoire, c'est établir des relations entre des événements passés en retraçant un chemin dans le monde. C'est un chemin que les autres peuvent suivre en reprenant le fil des vies passées et en faisant défiler le leur. Mais comme dans la technique des boucles et du tricot, le fil qu'on déroule et le fil qu'on reprend font tous deux partie de la même fibre. Entre la fin du récit et le début de la vie, il n'y a pas de point. Il s'agit de Tim Ingold, une brève histoire des lignes. Voilà, qui est un anthropologue qui a écrit plusieurs bouquins, et celui-là en particulier, c'est une espèce de bible pour toute ma famille d'ailleurs. Ma mère et mon frère aussi, mon beau-père aussi. Et voilà, c'est une espèce d'anthropologie des lignes où il nous encourage à ne plus voir les formes, mais à ne voir que les lignes, il appelle ça les lignes terribles, qui les font, qui les défont. Et le visage, le voir en ligne. Et il nous emmène comme ça dans un monde assez philosophique, assez inattendu, et c'est très beau.
Comme c'est court, vous pouvez nous le relire ?
Oui.
En prenant le temps de le relire.
Sinon, j'en ai d'autres.
Pas d'ici.
Une autre ?
Oui.
Ok. Suivre un trajet est, je crois, le mode fondamental que les êtres vivants, humains et non humains, adoptent pour habiter la Terre. L'habitation ne signifie pas pour moi le fait d'occuper un lieu dans un monde prédéfini pour que les populations qui arrivent puissent y résider. L'habitant est plutôt quelqu'un qui, de l'intérieur, participe au monde en train de se faire, et qui, en traçant un chemin de vie, contribue à son tissage et à son maillage. Même si ces lignes sont généralement sinueuses et irrégulières, leur entrecroisement forme un tissu uni aux liens serrés.
C'est beau.
Oui.
On va finir là-dessus. Finissons sur les liens, finissons sur créer encore du lien, faire un peu de place, chacun sa part pour la prendre dans un collectif et puis se dire que l'héritage, on l'a dit encore une fois avec votre témoignage et votre film que j'encourage tous et toutes à voir, Le Sein des Voyous, l'héritage est quelque chose de mouvant, quelque chose qu'on prend, qu'on reprend, qu'on lâche, qu'on reprend, qu'on redécouvre et qu'on redécouvre encore, si tant est qu'on ait un petit peu l'envie et l'enthousiasme de parler et de se laisser surprendre. Merci beaucoup Maïlys Audouze.
Merci Mélanie.
On n'a pas tout dit. Évidemment, mais c'est toujours comme ça dans l'instant 2 sur Radio Grenouille. On vous invite à aller bien sûr voir la page, consulter la page de l'émission. On mettra le lien peut-être vers votre film et les prochaines projections. Et puis, on aurait pu parler de la suite, mais on vous la souhaite très belle. Parce que ce n'est que le premier film documentaire. Et donc, comme vous l'a dit votre sœur de 9 ans, bonne suite, bonne continuation, elle vous l'a dit, c'est ça ?
Oui.
Dans l'instant 2. Et qu'elle soit, comment elle a dit ? Bonne continuation et prends soin de toi. Un truc comme ça. Bon, plein de bienveillance. Merci beaucoup Maïlys de vous avoir été avec nous.
Merci.
Merci à Victor et Margot également. Et merci d'avoir témoigné, hein, Victor et Margot qui nous écoutent peut-être dans cette grande famille, la famille de celles et ceux qui ont envie un petit peu comme Apollinaire de rallumer les étoiles. Merci beaucoup à Seb pour cette nouvelle technique, là aussi pleine d'étoiles de l'enregistrement de l'instant 2. Et puis on vous souhaite un joli mois de mai, un petit peu serein tout ça, avec des étoiles aussi autour de vous. Et on vous dit au mois prochain, vous retrouvez cette émission sur la page Facebook, là aussi des réseaux sociaux. Oui, ça peut servir à recréer des étoiles. L'instant 2-émission radio, avec les podcasts évidemment de Radio Grenouille. À très bientôt, vive l'héritage, pourvu qu'il soit beau.
L'instant 2 sur Radio Grenouille.